Avremo Bibbia dal libro di Esatto, di Saputro, capitolo 7. Voilà, on se trouve, c'est la lapidation d'Étienne. Et c'est là qu'Étienne il lance une prière qui est en même temps, et c'est un résumé de l'histoire d'Israël. Voilà ce qu'il dit. Étienne, il dit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu des gloires apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans les pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, et même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Donc ça, c'est beaucoup de temps avant. Hein? Et voilà ce qu'il lui dit par la suite au verset 6. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux. Vous voyez, le Dieu omniscient, il parle à Abraham déjà de ce qui arrivera à sa postérité. Il lui dit, tu auras une postérité, hein, qui habitera dans le pays que je t'ai promis, mais je te dis de suite que cette postérité, il sera en esclavage pendant 400 ans. Hein. On a vraiment un Dieu qui connaît tout. Et au verset 8, « Puis donna Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. » Et le délivra de toutes ses tribulations, il lui donna de la sagesse, il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, dans le deux hommes ils sont nommés, qui s'appellent Joseph. Dans le nouveau, c'est Joseph, le père de Jésus, et ensuite il y a Joseph, hein, le fils de Jacob. Hein? Et c'est justement de ces Joseph-là que j'aimerais vous parler ce matin, et aussi par la suite, hein, vous apporter des enseignements sur cet homme, Joseph, car Joseph, c'est la typologie parfaite de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur. Plusieurs chapitres, ils sont consacrés à Joseph. Hein? Et bien davantage que les autres. Pourquoi? Mais justement, la raison, c'est que presque tout dans sa vie, c'est en analogie avec la vie de Jésus-Christ. Et à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est qui nous intéresse? C'est de connaître celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Et pour montrer aussi, et pour que les gens ils sachent que l'Ancien Testament, il parle de Jésus-Christ, nous allons voir dans l'Ancien Testament cette analogie qu'il y a entre Joseph et Jésus. Parce que à nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce que nous avons entre nos mains est la parole de Dieu. Pas que l'Ancien Testament il soit la parole pour les Juifs et le Nouveau Testament pour les chrétiens. Non, c'est en complet la parole de Dieu. Et le Seigneur, il l'a dit lui-même, il a dit vos écritures, il parle de moi. Donc, lorsqu'il disait ça, il parlait de l'Ancien Testament. Donc, la Bible, c'est une entité complète, et nous allons voir à travers ce Joseph, nous allons relater toute son histoire. Pas aujourd'hui, hein, sinon on ne bougerait pas d'ici pendant une semaine. Hein. Mais je vais vous montrer déjà quelques-unes de ces analogies entre Joseph et Jésus-Christ. Et ensuite, dimanche après dimanche, on va voir la vie de ce Joseph. Et à travers lui, à travers ce qu'il a vécu, on va découvrir la vie de Jésus-Christ. Hein? On dit toujours ça, Joseph, c'est le type de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se réalise là, mais en même temps, il prophétise ce qui va arriver dans la suite à la personne qui est le plus important de toute la Bible, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Hein? Le premier point entre ces deux personnages, c'est que la naissance de Joseph et la naissance de Jésus, ils sont deux actes miraculeux. Jésus, vous savez qu'il est venu au monde par le Saint-Esprit, et Joseph, sa mère, qui était sa mère? La mère de Joseph, qui était? Rachel. Il faut connaître la parole de Dieu. Rachel. Vous savez que Rachel était stérile. Et même, elle s'est tournée contre son mari, il lui a dit, donne-moi un enfant. Et Jacob, il lui a dit, mais je ne peux rien, je ne peux pas te donner un enfant. Dieu seul peut te donner l'enfant. Et Dieu, il s'est souvenu de Rachel et il lui a donné cet enfant qui est Joseph. Voilà la première analogie entre ces deux personnes. Ces deux personnes, ils sont venus au monde par le miracle de Dieu. Dieu, il est intervenu dans les deux cas. Deuxième analogie, c'est que tous les deux, Jésus et Joseph, étaient deux personnages spéciaux. Pourquoi ? Parce que tous les deux, ils avaient sur eux l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Hein? Et dans Genèse 37, 3, il dit, Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Hein? C'est bien que, on sait bien qu'il ne peut pas y avoir des distinctions entre les enfants. Mais sur Joseph, il y avait un amour particulier de Jacob. Et vous savez bien que dans la vie de Jésus aussi, on l'a vu ce matin, Dieu c'est le père du fils, hein, et il l'aimait, et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui vous devez l'écouter. Donc on voit ici aussi, et il dit que lorsque Jésus fut baptisé, alors qu'il entra dans l'eau, la voix de Dieu se fit entendre, « Voici mon fils bien-aimé. » Dommage que vous n'étiez pas là ce matin, on a parlé justement de ce fils bien-aimé. Hein? Que Jésus, en tant qu'homme, mais il était aussi le fils de Dieu. La deuxième personne de la Trinité qu'il est descendu ici-bas. Donc, encore une analogie entre eux. La troisième personne, c'est que tous les deux, ils ont commencé leur ministère à la même âge. Et on voit tout cela là, il dit dans Genèse 41-46, il dit « Joseph avait 30 ans lorsqu'il s'éteint devant Pharaon, le roi d'Égypte. C'est là qu'il a commencé à être mis en tant que second du Pharaon. C'est là qu'il a commencé son ministère. C'est là qu'il a tout commencé. Et Jésus, à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser, et une fois baptisé, il a commencé son ministère. Là aussi, c'est un petit enseignement pour chacun de nous, que notre vie de travail, de service, de ministère, il doit commencer à notre baptême. Vous me direz, mais moi je ne travaille pas, je n'ai pas été baptisé. Non, mais justement, c'est que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on doit se faire baptiser, et c'est là que notre service, notre travail pour le Seigneur, il commence. C'est Jésus-Christ, il a été baptisé, et tout de suite, il a commencé. Il n'avait rien fait jusqu'à ce moment, c'est le moment. Et tous les deux, à 30 ans, ils ont commencé le service de Dieu. Lorsque Dieu il met à part quelqu'un, c'est pour son service. Si vous ne servez pas le Seigneur, si vous ne témoignez pas pour le Seigneur, si vous n'évangélisez pas, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Et nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Et si nous n'évangélisons pas, ne témoignons pas, comment voulez-vous glorifier Dieu? Dieu nous a laissés ici-bas pour propager cette bonne nouvelle. Et si ce n'est pas nous, comme je dis toujours, qui voulez-vous qu'il aille annoncer aux autres? Et vous savez, tout autour de nous, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quel est notre premier souci? C'est de penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça notre priorité. Car le Seigneur, il désire que tous, ils arrivent à la connaissance de la vérité. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, comme disait Esaïe, comment apprendront-ils qu'il y a un Dieu d'amour qui les aime? Voilà, ils se sont fait baptiser, et ils ont commencé leur ministère. Encore une fois, on doit se faire baptiser. Si on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, nous devons nous faire baptiser. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'on l'accepte, il devient notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et Jésus, il nous dit de nous faire baptiser. Si nous ne le faisons pas, nous sommes désobéissants. La quatrième analogie entre ces deux personnes, tous les deux, ils étaient haïs par leur frère. Hein? Le frère de Job, dans Genèse 37 ou 8, dit, ses frères lui disent, régneras-tu en effet sur nous? Ou domineras-tu en effet sur nous? Et il le haïra encore plus à cause de ses rêves, de ses paroles. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph, le pauvre? Mais on va le voir dans les prédications, parce que je me suis mis à étudier Joseph, et j'en ai retiré des bénédictions immenses. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, il a montré à Joseph, à travers deux rêves, qu'il serait le dirigeant, qu'il serait le personnage principal de la famille de Jacob. Alors, il avait rêvé des gerbes, et il a dit que la gerbe que lui représentait, il était debout, et le gerbe des frères, il s'est couché devant lui. Et même le soleil et la lune. Alors le soleil, c'est Jacob. Et la lune, c'est la mère, c'est Rachel. Et tous, ils s'est prosternés devant lui. Voilà, les frères, ils ont dit, alors, est-ce que nous devons t'adorer? Ben, Joseph, il a dit, ça c'est le rêve, je vous l'ai dit. Et Jacob aussi. Parce qu'il a reçu le rêve, il lui a dit. Et c'est là que Jacob, il a compris. Dieu, il le réservait pour une tâche spéciale. Et c'est encore une fois la même chose pour Jésus-Christ. Si la parole a été faite chair, il avait une tâche spéciale. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que nous dit Esaïe à propos de Jésus? Ils m'ont haï sans Il n'y avait aucune raison d'haïr Jésus parce qu'il a fait que du bien. Et pourtant, le peuple, il lui a donné que des choses qui ne sont pas bien. Il était haï. Il nous a dit dans plus loin à cause de Jésus, il nous a dit qu'il était vraiment rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ils étaient haïs par des frères. Les frères de Joseph, ils l'ont haï, et les frères de Jésus, ils l'ont haï. Les Juifs. Encore une fois, c'est quelque chose que les gens ils ne comprennent pas. On ne veut pas comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Jésus, il est venu avant tout pour les Juifs. Si Jésus il s'est tourné vers les nations, c'est parce que les Juifs, ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a envoyé ses disciples, il les a dispersés dans les nations, et il a dit, les nations, vous prenez tous ceux qui croient en moi, et moi je bâtirai mon église. Il a mis de côté Israël, et il s'est choisi des gens de toutes les nations qui forment son église. Et alors des gens, ils disent un peu comme les témoins de Jéhovah, Israël, il n'existe plus. Israël a été mis de côté. Mais Paul, il répond à cette question. On lui demande, mais est-ce qu'Israël, il a été mis de côté? Il a dit, loin de là. Jésus-Christ, il est en train de former l'Église à laquelle nous, nous appartenons. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'Église, ce n'est pas Israël. Un juif qui s'est converti à Jésus-Christ, il rentre dans l'Église. Et dans le salut, il nous a dit, Paul il le dit, il y a des saluts pour tous. Il n'y a ni grec, ni juif, ni italien, ni cambodgien, je ne sais pas moi. Il n'y a que des enfants de Dieu. Et c'est l'Église. Mais nous avons cette promesse du Seigneur qu'un jour il va revenir prendre cette Église. Ne crains pas. Je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Lorsque le Seigneur Jésus il va revenir, il va prendre tous ceux qui lui ont fait confiance ici-bas sur terre. Il va les ressusciter et il va les amener dans ses corps glorieux au ciel. Alors, Israël, il va reprendre la place qu'il aurait dû jamais quitter. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il va se montrer à Israël. Et on va le voir dans l'histoire de Joseph, toutes ces choses-là. C'est là qu'Israël va reprendre la première place qu'il aurait dû jamais quitter. Mais Dieu, lorsqu'il fait une promesse, sachons-le, Dieu ne retire jamais la promesse. Il nous dit, celui qui croit en Jésus est sauvé. Et celui qui croit en Jésus, il peut affirmer, il peut crier, s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, je suis sauvé, je vais rejoindre mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça l'assurance que nous avons. Mais si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Donc on voit ici cette... Et Jésus, il le dit... Ils m'ont haï sans cause dans 15-20. Jean 15-20. Sans cause. Parce que Jésus, il a fait que de belles choses. Il a dit, oui, mais nous sommes le peuple d'Abraham. Il a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous m'aimeriez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes contre moi. Donc on voit qu'avec Joseph et Jésus, il y a encore cette chose, tous les deux, ils ont été haïs par leurs frères. Et il y a le cinquième, tous les deux, leurs frères, ils ont conspiré contre eux. Tous les deux. Alors les frères, un jour, Jacob, il dit à son frère Joseph, il lui dit, écoute, va à tel endroit, à voir comment ils se portent tes frères, parce qu'ils étaient en train de paître les troupeaux. Et alors, Joseph, obéissant, il va et cherche ses frères. Ses frères, ils l'ont vu de loin, ils ont dit, tiens, voilà qui sait quoi, c'est celui qui sait quoi quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et ils ont dit, on va le tuer. Et la même chose est arrivée à Jésus-Christ. Il était ici-bas pour manifester la gloire de Dieu. Il a fait des œuvres de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, ils ont conspiré contre lui. Tuons-le. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis entre les mains des Romains. Parce que les Juifs, ils n'avaient pas le droit de tuer quelqu'un. Voilà pourquoi ils l'ont mis entre les mains des Romains, et c'est eux qui l'ont tué. Mais c'est les Juifs qui l'ont mis là. Donc les frères de Jésus, hein, ils ont agi comme les frères de Joseph. Et ça, c'est encore tout autour de nous aujourd'hui. On voit que ça. Lorsque je témoigne ou j'évangélise, je vois des gens qui me disent « Ne me parle pas de Jésus. Ne me parle pas de Dieu. » Dieu est mort, j'en veux pas. Mais comment peut-on vivre sans Jésus ou sans Dieu? On ne peut pas. Jésus lui-même nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de quelqu'un sur qui mettre notre confiance, sur qui nous confier, sur qui avoir un avenir. Et vous savez, dans la Bible, dans Jérémie, il nous l'a dit, « J'ai de l'avenir pour toi. » Ce n'était pas un avenir comme lui, il espérait. Jérémie, il était fiancé. Et à un certain moment, le Seigneur, il a dit, « Quitte tout ça. » Il a dit, « Oui, mais moi, je l'aime, Seigneur. Quitte tout ça. J'ai de l'avenir pour toi. » C'est vrai que l'avenir de Dieu, ce n'est pas l'avenir que nous avons. On le répète toujours dans nos prières, dans nos réunions de prière. Des fois, on prie pour des motifs qui nous concernent. « Ah, Seigneur, aide-moi à faire ça, à faire ça. » Il faut dire, « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est lui qui dirige toutes choses. Il a vu le moment où nous sommes venus au monde. Il a vu le moment où nous allons mourir. Tout est entre les mains de Dieu. Et chaque chose que nous faisons, que nous disons, nous devons dire, « Seigneur, montre-moi. Montre-moi. » C'est ça qu'il faut faire. Hein? Sixièmement, tous les deux, Joseph et Jésus, ils ont été vendus pour de l'argent. Hein? Joseph, il y avait des Ismaélites qui passaient. Il l'avait mis dans une fosse avant, il passait ces gens-là, ils l'ont retiré de la fosse et l'ont vendu à ces Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Jésus, il a été vendu par Judas. Joseph, il a été payé moins que Judas, 20 pièces, tandis que Jésus, 30 pièces. Et ça, et tout avait été prophétisé par Jésus, hein. Pour Jésus, pas pour Joseph. Mais lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit que les frères de Joseph, ils ont vendu pour 20 pièces d'argent. Alors c'est là que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous dire, tiens, j'ai cherché Jésus, où il est? Ben, il est là. Jésus, il a été vendu comme Joseph. C'est ça l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons l'ouvrir et se dire, Seigneur, montre-moi où tu es. Parce que l'Ancien Testament, il parle de Jésus. Donc, tous les deux, ils ont été vendus. Et il nous est dit dans 37, il dit, dans Genèse 37, ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, hein, il alla chez les principaux sacrificateurs dans Matthieu 26 et il dit, que me donnerez-vous et je vous livrerai? Et ils convirent avec lui 30 pièces d'argent. Lui aussi, Jésus, il était vendu. Comment peut-on vendre quelqu'un qui nous a fait que du bien? Lorsque nous rejetons Jésus, lorsque nous ne suivons pas ses commandements, nous le vendons, nous le bradons. Voilà pourquoi c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de vivre tout ce que Jésus il a dit. Vous savez, Jésus, il prêchait, mais Jésus, il vivait ce qu'il prêchait. Est-ce que nous faisons autant? Est-ce que nous vivons ce que nous sommes? Est-ce que nous vivons ce que nous sommes? Et ça, il y a des gens tout autour de nous. La sœur, il a dit, pour le témoignage. C'est ça notre témoignage. Imaginez-vous que j'ai dit, je suis chrétien, et le lendemain, quelqu'un me voit dans une boîte de nuit, je ne sais pas, en train de faire je ne sais pas quoi, ou en train de fréquenter des endroits où je ne dois pas être. Quel témoignage! Jésus, il était toujours là où il faut. Je vous l'ai déjà dit, il y a ce beau livre là. Si vous ne l'avez pas lu, demandez-le, il va vous l'amener. Que ferait Jésus à ma place? Si chaque fois qu'il y a une tentation, une épreuve d'aller quelque part ou pas, si nous nous posions la question, est-ce que si je vais là, Jésus, il m'accompagnerait? Si nous voulons vivre une vie agréable à Dieu, nous devons suivre la parole. Oui, mais je ne connais pas la parole de Dieu, je ne sais pas ce qu'elle est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, Dieu il nous l'a révélée dans sa parole. Il nous l'a dit dans Michel, « Oh homme, je te fais connaître ce que le Seigneur il désire de toi. Je te fais connaître. » Donc, la volonté de Dieu est là. La volonté de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, je connais une fille, mais elle n'est pas chrétienne, est-ce que je peux me marier avec? J'ai dit, mais toi, est-ce que tu es chrétien? Ah oui, je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Mais alors, regarde ce qu'il dit la parole à propos de ça. Il te dit, niet. Voilà. Et que dois-je te dire de plus? On ne peut pas mélanger deux choses. Ils ne sont pas tout, ils sont pas du tout ensemble, ils ne vont pas ensemble. Si toi tu es chrétien ou ta fiancée n'est pas chrétien, ou le contraire, comment veux-tu vivre pour Dieu? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors à nous de suivre. Et encore une fois, le Seigneur il nous l'a dit, ce n'est pas celui qui connaît la Bible par cœur qui est mon disciple, non. C'est celui qui la connaît et qui le met en pratique. C'est ça qui faisait le Seigneur. Il a dit, mon Père, il me dit ce que je dois faire. Et moi, je dis toujours ce que mon Père, il me dit de faire. Qui de vous me convaincra de pécher? Mais ça, c'est le Seigneur qui peut le dire. Je ne peux pas le dire moi. Ou vous. Hein. Il n'y a personne qui peut faire ça. Mais Jésus, il l'a fait. Parce qu'il suivait scrupuleusement ce qu'il devait faire pour Dieu. Il y a aussi un septième, tous les deux, hein, Jésus et Joseph, ils avaient un manteau taché de sang. Joseph, il l'avait reçu par son père, parce qu'il était le plus aimé des enfants. Il lui avait donné une tunique écarlate. Hein? Et alors, bien sûr, ses frères, ils étaient jaloux. Mais on va le voir ça plus profondément, toute cette histoire de la tunique. Mais là, il lui avait donné cette tunique, et lorsque les frères ils ont vu Joseph arriver, il lui dit, le voilà celui qui va être roi, nous allons le tuer. Ils lui ont retiré la tunique, ils l'ont plongé dans le sang d'une bête, et avec cette tunique, ils l'ont portée à Jacob. Jésus, lorsqu'il a été arrêté, il avait une tunique. Et cette tunique, elle était aussi tachée de sang. Parce que vous savez, Jésus, il a souffert sur la croix. Oui, il a souffert sur la croix. Mais il a aussi souffert avant d'être crucifié. Il a été flagellé. On lui a craché dessus. On lui a fait toutes les choses abominables. Et vous savez, la flagellation chez les Romains, c'était pas simplement un fouet, hein? Non. C'était de lamelles avec du fer attaché, là. Et ils ont fait ça sur la tunique. La tunique était remplie de sang. Voilà, encore quelque chose qui se met ensemble. La tunique de Joseph remplie de sang et la tunique de Jésus-Christ, lorsque les Romains se sont partagés ça, elle était remplie de sang. Mais il y avait avec cette différence, par le sang, ils ont reconnu la signification de ce sang. Jacob, lorsqu'il a vu la tunique pleine de sang, et il a dit, mon fils est mort. Lorsque Dieu il a vu la tunique de sang de son fils, il a dit, voilà, justice est faite. Oui, le péché il a été expié par Jésus-Christ. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons, que nous avons la vie éternelle. Encore une bonne analogie. Mais encore une fois, nous rentrerons là-dedans. Plus profondément, il y a encore plus d'enseignements qu'on peut en retirer. Il y a aussi, tous les deux, Joseph et Jésus, ils ont été séparés de leurs frères pendant longtemps. Joseph, il a été mis dans une fosse, il a été vendu aux Ismaélites, et les frères, ils ne l'ont plus revu depuis longtemps. Jésus, il a été sur la croix et il est resté longtemps sans voir ses frères, c'est-à-dire le peuple juif. Tous les deux, une analogie, mais tous les deux, un jour, ils le reverront. Car tout ça, c'est dans la prophétie que la Bible il nous donne. Donc, nous, si nous voulons voir Jésus, nous devons accomplir sa volonté. Nous devons l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur, c'est une promesse qu'il nous a faite, et c'est l'espérance de l'Église, cela. Le retour du Seigneur. Le monde aujourd'hui, il parle de l'Apocalypse. Tout va être détruit. Mais nous, chrétiens, nous n'attendons pas l'Apocalypse. Nous attendons un Seigneur et Sauveur qui va nous prendre. Mais ce n'est pas la fin du monde. Vous demandez à n'importe qui, c'est quoi l'Apocalypse? Il dit, ah, c'est la fin du monde. Non. Ce n'est même pas la fin du monde lorsque l'Église va être enlevée. Seulement, lorsque l'Église est enlevée, il va y avoir une période de temps, 7 ans, on appelle ça la tribulation, où la colère de Dieu, il va s'abattre ici-bas, sur tous ceux qui ont refusé le salut en Jésus-Christ. Et comme je dis toujours, ce n'est pas la colère d'Aldo, hein, c'est la colère de Dieu. Et si vous lisez l'Apocalypse, tous les fléaux, tous les sceaux, tous les cavaliers qui vont s'abattre ici-bas, c'est que de la tribulation pour ceux qui resteront ici-bas. Et moi, en sachant toutes ces choses qui viennent de la parole de Dieu, en sachant ces choses-là, j'accepte le Seigneur Jésus tout de suite. Hein, parce que je ne veux pas vivre ces choses-là. Je sais qu'il y a un sauveur qui veut me mettre à part, mais je me tourne vers lui. Vous savez, on prend des assurances partout aujourd'hui. Vous êtes assuré en toutes choses. Mais question de la vie éternelle, ah ben ça, je m'en fous. De l'éternité, ah ben ça, qui vivra verra, c'est ce qu'ils disent. Mais Jésus, il a fait des promesses. Et Jésus est Dieu. Et Jésus ne ment pas. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et c'est ça notre espérance. En tant que chrétien, c'est ça notre espérance. Il peut venir à n'importe quel moment, vous savez. Il n'a pas donné un temps fixe, hein, heureusement, n'est-ce pas? Parce que sinon, si je sais quand le voleur il vient, je serai là. Hein? Je serai prêt à le recevoir. Mais Jésus, il a dit, personne ne connaît l'heure ou le temps. C'est ce qui compte, c'est être prêt. Avoir le Seigneur dans son propre cœur. 9e, tous les deux, ils sont descendus dans les ténèbres. C'est-à-dire que Joseph, il est resté dans cette fosse, dans cette prison, hein, pendant très longtemps. Et Jésus, il a été crucifié et ensuite il a été enseveli. Il est resté dans cette tombe, dans les ténèbres, il est resté 3 jours. Et vous savez, lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on ne voit pas, on est vraiment mal à l'aise. Et vous savez, dans Jean, il nous a dit que la lumière, Jésus qui était la parole, qui était la lumière, elle est venue, elle a demeuré parmi nous, et c'est par lui que nous avons la lumière. Voilà ce que Jésus, il veut nous apporter. La lumière. Et la lumière, c'est Jésus. C'est le repos. C'est la vie, c'est le bien-être. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est avec nous. Dieu ne nous a jamais promis que nous n'aurons pas des souffrances, des épreuves, des tentations. Non. Mais la seule chose que Dieu nous dit, c'est qu'il nous dit, je suis avec toi. C'est lui qui nous donne le courage. Vous savez, quand traverser un endroit, moi je me souviens quand j'étais tout jeune, mon père il me disait, va travailler à la vigne. Mais cette vigne, il était tout à côté d'un cimetière. Et alors, chaque fois que j'ai passé dans ce cimetière, j'avais la trouille. Ben, il y avait les morts, voilà. Mais si j'étais avec mon père, j'y pensais même pas. Et c'est ça que le Seigneur veut nous enseigner. Que dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos peurs, le Seigneur il ne nous dit pas qu'il nous enlève, qu'il nous met à part de ces choses-là, mais il nous dit « Je suis avec toi ». Israël, il avait peur de combattre. Rentre dans le pays. Ah non, il est habité par des grands, par des géants et tout ça. J'ai combattu pour toi, je suis avec toi, vas-y. C'est à chacun de nous de mettre la propre confiance en Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il y a la dixième. Et pour cela, on va lire ensemble à Genèse 45. Car c'est le chapitre où il y a un des passages les plus émouvants de toute la Bible. Genèse 45. Nous allons lire les versets 1 à 5. Et il dit, Joseph ne pouvait plus contenir devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avec vous. Joseph, il a souffert toutes ces choses-là parce que c'était dans les plans de Dieu. Parce qu'en élevant Joseph, il aurait causé le salut de tous les Hébreux et du monde entier. D'ailleurs, Pharaon, il l'a appelé le sauveur du monde. Pourquoi ? Encore là, il y a eu un songe du Pharaon, 2 songes du Pharaon, que personne ne pouvait expliquer. Et alors, il y a eu en prison, vous savez bien qu'il y avait 2 hommes, qu'ils travaillaient pour le Pharaon, en échanson. Et l'autre, c'était un panetier, je crois, si je me souviens pas. Hein? Voilà. Et alors, ils avaient été mis en prison par les pharaons parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et voilà, ils le mettent en prison. Et où est-ce qu'ils le mettent en prison? Où il y avait Joseph. Hein? Vous me direz, hasard. Hein? Non. Vous savez, la pensée de Dieu dans notre vie, c'est toujours la même. Hein? Dieu, il nous fait passer par la souffrance, par l'humiliation, pour ensuite nous élever. Joseph, il a passé sa vie en prison. Il est resté 4 ou 5 ans. Après 2 ans, il a dit à ces 2 hommes, à travers un songe, qu'est-ce que c'est qu'il serait arrivé? Et la chose s'est arrivée. Et encore ici, c'est un rapprochement avec Jésus. Ne vous inquiétez pas, il lui a dit au verset 5, ces choses, ils me sont arrivées pour vous sauver. Vous avez pensé du mal de moi, mais Dieu, il l'a fait arriver pour vous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Exactement la même chose. Exactement la même chose. Il est devenu le sauveur du monde en donnant sa vie sur la croix. Et c'est exactement ce que nous devons retenir. Que Jésus-Christ, il a versé son sang pour cela. Et nous devons nous tourner vers lui. Car c'est le seul qui peut nous montrer le vrai chemin. D'ailleurs, lui-même, il a dit, le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Encore une autre analogie avec Joseph. Joseph, en prison, il était avec qui? Avec ces 2 hommes qu'ils ont fait un rêve. Il y en a un que son rêve a été exaucé et l'autre qui a terminé sa vie en prison. Et là encore, Jésus, lorsqu'il est monté sur les calvaires, avec qui il était? Avec 2 hommes. Il y en a un qui se repentit, qui s'est confié en Jésus et il lui a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. L'autre, qui l'insultait Jésus, il est décédé sur la croix et il est parti à la perdition éternelle. Dans le cas de Joseph, c'est pas mal. Il y en a un qui a été sauvé et l'autre qui n'a pas été sauvé. Hein? On voit encore là l'analogie de ces choses-là. Mais ici, dans ce chapitre 45, on voit que Joseph, à un certain moment, il a appelé ses frères. Hein? C'est un peu long à expliquer, mais bon, je prends encore 10 minutes. Ils sont venus 3 fois, les frères de Joseph. Première fois, il y avait la famine en Canaan, et Jacob, il a entendu qu'il y avait du pain, et il a dit, allez en Égypte. Ils vont en Égypte, hein, ils prennent du pain, Joseph les a reconnus. Mais il a dit, vous êtes des espions, tout ça. Il a dit, non, on n'est pas des espions. Et alors il les renvoie, il a demandé des nouvelles, est-ce que votre père est vivant, est-ce que votre petit frère est Benjamin, parce que Benjamin aussi c'est les fils à Rachel. Hein? Mais tout ça on va le voir par la suite, c'est vraiment des histoires entraînantes hein? Et très instructives pour nous qui sommes des chrétiens. Il a dit oui, ils sont vivants et tout ça. Et alors il leur a ramené, il a dit bon prenez le manger, le pain, le grain, prenez le grain, mais... Vous allez, et il a dit à son intendant, ouvre un sac et tu mets une coupe. Et ils ont refermé les sacs. Ils sont partis, mais l'intendant de Joseph, il envoie Joseph le dire, ces gens-là, ils m'ont volé. Il a dit, mais non, nous n'avons rien volé. Il a dit, regarde toi-même dans les sacs, tu vas voir, regarde autour de nous, il n'y a rien qu'on a volé. L'intendant, il savait, parce que Joseph lui a dit, il ouvre. Et qu'est-ce qu'il trouve? La coupe. Et c'est là qu'il a dit, il les a ramenés à l'Égypte, et ensuite il a gardé 2 frères, et il a dit, rentrez chez vous, mais vous allez me ramener les petits. Benjamin. Parce que Benjamin, c'est les frères de Joseph. Fils de Rachel, tous les 2. Hein? Et voilà pourquoi ils sont revenus la 2e fois, ils sont venus avec Benjamin. Et c'est là que comme on vient de lire, Joseph ne pouvait plus se contenir devant eux. Parce que Joseph, il savait, mais eux, ils ne savaient pas. Là encore, un enseignement pour nous. Jésus-Christ, il a formé son Église. Il a laissé de côté Israël. Et il s'est donné entièrement à l'Église. Je bâtirai mon Église. Mais lorsque l'Église va être enlevée, le Seigneur Jésus, il va se manifester encore à Israël. Et ici, c'est Joseph. Je suis Joseph. Je suis votre frère. Et dans l'Ancien Testament, les prophéties, il nous est dit, dans Zacharie, il a dit, Jésus qui se présente sur le mont des Oliviers à Israël, et on lui demande, qu'est-ce que c'est que ces traces que tu as aux mains? Il a dit, c'est celle que vous m'avez donnée. Et c'est là que le peuple d'Israël, il reconnaîtra Jésus-Christ. Et pareillement, Joseph, il s'est fait connaître pour la deuxième fois. La première fois, il était dans l'humiliation, mais la deuxième fois qu'ils sont venus, c'était dans la gloire. Il était le second de Pharaon. Et Jésus, la première fois, il s'est montré dans l'humiliation. Il est venu pour sauver, mais la deuxième fois qu'il va se montrer, il va être en tant que Messie, en tant que le Sauveur. Il est venu pour sauver la première fois et il viendra une deuxième fois pour juger. Voilà l'enseignement de ces versets. Hein? Et Paul il nous dit que ce retour de Jésus-Christ, c'est un mystère. Le retour de Jésus-Christ, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, que Dieu n'a pas révélé. Mais il dit, je vous dis un mystère. Lorsque Paul il parle, ce n'est plus un mystère, puisqu'il nous le révèle. Et il nous parle du retour de Jésus-Christ, de la résurrection des morts pour chacun de nous. Voilà l'enseignement qu'ils peuvent nous donner, toutes ces analogies entre Joseph et Jésus, que Jésus, c'est le centre de la Bible, et que dans l'Ancien Testament, Joseph, ainsi que tant d'autres choses, il nous parle de Jésus. Et notre devoir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Car de lui dépend tout notre avenir. Si nous avons Jésus, Dieu il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Si tu n'as pas Jésus, il n'y a aucun avenir pour ceux qui n'ont pas Jésus. Oui, un seul endroit, dans les séjours des morts, premièrement. Sinon, ils iront rejoindre celui qui ont décidé de servir le diable. À chacun de nous de réfléchir, car le temps est proche. Le Seigneur il peut venir à n'importe quel moment. Donc à chacun de nous de prendre cette grande décision. Comme il avait dit Moïse dans le message il y a 15 jours, à moi ceux qui sont l'Éternel. Donc prenez la bonne décision, car il ne vaut de votre éternité. Amen. Amen.